Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous. Alors, ce matin, on va réfléchir sur une étude. Mais ça va être simple. Je vais essayer de rendre les choses difficiles faciles. C'est vrai. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous allez juger vous-même. Voilà. Alors, j'ai entendu dans ces cantiques ce matin, oui, je pense qu'il doit y avoir une inspiration, comme très souvent d'ailleurs, hein, l'introduction des cantiques, eh bien, nous donne quelque chose, un avant-goût, finalement, du message qui suit. Et dans ce petit cantique, il y avait ces paroles, « Je veux te voir, Père, je veux te voir, Seigneur. » Dieu, parmi les facultés qu'il a données à l'homme, et puis aussi aux animaux, mais on va parler des hommes, c'est qu'il nous a donné la vision. La vision, ce sont nos yeux. Et les yeux, c'est important. C'est essentiel. Et vous savez que dans l'Évangile, Jésus s'est préoccupé particulièrement d'ouvrir les yeux des aveugles. Alors c'est quand même quelque chose que je voulais souligner dès le départ. Et nous avons, à travers ce petit cœur, « Je veux te voir, Père, je veux te voir, Seigneur. » C'est que nous avons besoin, finalement, d'avoir, eh bien, non pas de la clairvoyance, mais d'une vision claire. Et pourtant, il y a des choses par rapport à nos yeux que nous ne pouvons pas voir tant que nous serons dans un corps. Ouais. Il y a des choses qui existent, dont nous avons entendu parler, dont nous avons été, eh bien, renseignés sur l'existence de tel personnage, et que nous ne pouvons pas voir parce qu'il n'est pas devant nous, tout simplement. Donc, on sait qu'il existe, mais il est invisible. Et je crois que ça va être un petit peu le sujet de notre réflexion ce matin. Je veux te voir, Père. Seigneur, montre-toi. Révèle-toi. Mais ça ne se fait pas forcément à travers notre capacité de voir. Alors, pour cela, je voudrais vous parler de ce Dieu qu'on ne voit pas. Vous avez déjà vu Dieu ? Non, vous en avez entendu parler. Vous avez certainement étudié son caractère dans la Bible, ses prérogatives, sa puissance, sa divinité. Tout cela, vous le savez. Et je suis sûr qu'il n'y a personne qui ne l'a vu, réellement. Ouais. Vous savez qu'il y a deux testaments, deux écritures particulières. Il y a l'Ancien Testament, où Dieu se montre à un peuple et au monde entier aujourd'hui. Et il y a la Bonne Nouvelle, le Nouveau Testament, et là nous voyons Dieu. Mais nous ne le voyons pas, comme je vous vois, par exemple. Alors, on va ouvrir un texte, c'est ce qui va nous occuper ce matin. Et dans l'Épître aux Romains, alors vous connaissez naturellement le sujet, mais je voudrais le lire parce que c'est lui qui va faire l'objet de notre réflexion. Dans Romains, chapitre 1er et au verset 18, ou au verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour les hommes, pour eux, en effet, eh bien, notre humanité, Dieu l'aurait fait connaître. » Alors la connaissance, elle commence par la parole, naturellement. Hein. parole est venue et elle nous a parlé, Dieu s'est présenté. Parce que, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, de l'univers probablement, parce que on ne va pas jusque-là, et là ça fait partie d'un autre monde de l'invisible, quand on les considère dans ses ouvrages. Voilà, nous apprenons les choses parce que Dieu a fait les choses. Ils sont donc inexcusables. Ça, c'est une question sérieuse. Il est parlé peut-être des incrédules, probablement. Il est parlé peut-être des croyants qui ne croient pas. C'est quand même curieux, ça, hein, les croyants qui ne croient pas. Et nous allons, justement, ceci dit, eh bien, donner une introduction, tout simplement, eh bien, à travers Moïse. Dans l'Exode, on va lire un deuxième texte, dans l'Exode, chapitre 3, et nous allons donc tourner quelques pages, pour arriver, eh bien, là, dans le début de notre Bible. Alors, chapitre 3, j'ai dit, et versets 3 à 6, il est dit ceci. C'est au buisson ardent. Vous avez entendu parler, Moïse, qui est intervenu, ou qui intervient, ou Dieu intervient auprès de Moïse surtout, parce que Moïse se pose des questions, et il répondra ceci. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Ça, c'était véritablement du surnaturel, mais il y avait des raisons et vous connaissez, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'Éternel vit qu'il se détournait, que Moïse se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du buisson et lui dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alors, ça c'est plein de questionnements, de mystères. Et nous avons dans, toujours Exode, au chapitre 33, un peu plus loin, c'est Dieu qui va donner aussi des réponses à Moïse. C'est beaucoup plus loin, naturellement, à partir du chapitre 3. Maintenant, nous sommes au chapitre 33. Et Dieu va dire à Moïse, l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Alors, il y a des choses qui, véritablement, vont se mettre en place. On ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est pas possible. En raison de sa divinité, de sa magnificence, de ce qu'il y a d'unique chez Dieu, on ne supporterait pas. Même avec des bonnes lunettes, on ne pourrait certainement pas le supporter. Alors, on va partir de ces deux textes, et je voudrais quand même ajouter ceci en introduction. Il y a un besoin, est-ce la curiosité, est-ce le mystère, est-ce la compréhension finalement, eh bien des choses qui nous dépassent parce que nous ne sommes que des hommes, le besoin de voir Dieu. Est-ce que vous avez demandé à le voir? Quelquefois de dire, Seigneur, je voudrais te voir, ça me ferait tellement de bien, ça, véritablement, ça soutiendrait ma foi. Alors peut-être que vous l'avez demandé de cette manière, mais sans vraiment penser que vous allez le voir. Ah oui, parce que bon, vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui est impossible aux humains, aux hommes. Parce que je voudrais vous dire tout de suite qu'il y a deux natures. Il y a la nature matérielle. Nous sommes dans la corporité, c'est-à-dire nous sommes dans un corps. Corporalité, si vous voulez, mais ce n'est pas comme ça qu'on dit normalement. Deux natures, une nature charnelle, matérielle, physique, et nous savons que Dieu, eh bien, est spirituel, Dieu est esprit. Et là, ça ne va pas ensemble. pas pour l'instant, pas dans cette relation de l'homme sur Terre, vivant sur Terre, mais il y aura naturellement une dimension qui sera tout à fait différente lorsque nous arriverons de l'autre côté. Ah, qu'est-ce que ça va être ? Alors, on est déjà préparé à travers la parole, à la manière dont il se, lui-même se présente. Dieu a un caractère, il a une personnalité, il a une identité. Mais il n'y a rien à voir avec notre corps de misère, avec nos yeux, qui se limitent à si peu de choses. Et pourtant, il y a des choses à voir dans la création. Hein. Quand on voit finalement les beautés, quand on voit la majesté de la formation de la terre, les animaux, les papillons, les oiseaux, les poissons. Enfin, je vais m'arrêter là parce que vous n'êtes pas rentré chez vous. Et voilà. Donc, ce sont deux natures différentes et pourtant, la nature d'en haut nous prépare finalement à nous dépouiller comme la chenille va devenir papillon, si vous permettez. C'est beau un papillon, hein ? Eh oui, il y en a de moins en moins parce que on les traite. Je ne sais pas ce qu'on traite, mais toujours est-il qu'on est en train de détruire un petit peu ce que Dieu a fait dans la beauté des choses. Parce qu'il n'y a pas de limite chez Dieu, naturellement, il est Dieu. Alors, il y a trois déclinaisons que je voudrais vous présenter. La première, c'est tout simplement la mythologie. La deuxième, c'est le détournement de la foi juive, comprenez. Et puis la troisième, c'est le dérapage de la foi chrétienne. Où là, eh bien, finalement, à vouloir voir Dieu, à vouloir s'approcher de Dieu, à vouloir être, finalement, eh bien, le voir en quelque sorte, il y a des choses, eh bien, qu'on ne peut pas, finalement, eh bien, comprendre. Le Dieu qu'on ne voit pas. Question de tous les hommes, dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, d'une manière ou d'une autre, où il est question de Dieu, les philosophies où ça trait à Dieu, naturellement. Hein. Alors il y a naturellement l'invisibilité divine, il y a aussi, nous pouvons parler de l'accessibilité, comment voir Dieu, et puis il y a naturellement l'apparition ou la révélation. Alors, je vais essayer d'être très simple pour que vous puissiez comprendre eh bien là le raisonnement. L'invisibilité divine, c'est un mystère. Eh oui, un mystère, car Dieu est esprit. Alors, ça paraît simple, hein, mais c'est vraiment simple, il faut revenir à la simplicité. Dieu est esprit, nous sommes matière. Et nous savons que cette invisibilité, eh bien, nous est inaccessible pour nous. Hein. Dieu est esprit, il n'est pas matière, il est invisible aux yeux des hommes parce qu'il est incorporel. Il n'y a pas la relation, finalement, comme nous avons les uns avec les autres. Pour la plupart d'entre vous, je pourrais vous appeler par votre prénom parce que je vous ai identifié. Hein. Et j'ai mis mes lunettes ce matin pour ne pas me tromper. Monsieur, madame, quelquefois ça m'est arrivé à plusieurs reprises, quand je reçois un coup de fil, on me dit « Madame ». Ah non, je suis bien un monsieur. Bah, vous l'avez peut-être constaté. Alors, c'est simple, ça va, vous comprenez ? Ça, ce langage, vous le comprenez naturellement. Incorporel. Supposition de l'existence d'un autre monde, le sien, tout simplement. Celui de l'invisible et du caché. Pourquoi est-il caché ? De l'inexplicable et de l'incompréhension. Ah, on aime bien, Seigneur, si je comprenais, si je savais, si tu te montrais, si tu faisais ceci, si tu faisais cela. Seigneur, eh bien, je voudrais que tu me donnes la preuve. C'est dans la tête, hein. Parce que ce n'est pas parce que nous allons comprendre certaines choses que vraiment nous allons croire. Hein. Il y a bien des gens qui comprennent beaucoup de choses et qui finalement, ça les endurcit dans leur incompréhension et même dans la révolte. Hein. Je parle de l'accessibilité maintenant. La foi et la révélation par les métaphores dans l'Ancien Testament, beaucoup dans le Nouveau Testament, signé Jésus naturellement, il y a des belles paraboles. Et elles ne sont pas difficiles, les paraboles de Jésus. Elles sont faites pour les enfants comme pour les grands. Pour ceux qui sont vraiment peut-être primaires dans leur vie, et c'est pas péjoratif, et pour les savants. Et vous savez qu'il y a des savants qui se posent des grandes questions aussi, hein. Et quelquefois, ils arrivent à la compréhension de Dieu. Et ils ne voient toujours pas, mais... Ouais, parce que c'est un déclic. Ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est l'esprit, naturellement. Hein. Donc, illustration parabolique, métaphore, c'est une sorte de langage par l'image. Et Dieu, quand il a envoyé Jésus, il a dit « Tu vas leur raconter des histoires, des belles histoires. » Et c'est ce qui nous a amené nous-mêmes à la conversion. Il y a bien une parabole ou autre chose qui nous a touché profondément, et le fils prodigue, par exemple. Hein. On a tous compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire « Convertis-toi. » Demande, reviens vers le Père. Reviens vers ton Père. Alors, le langage de voir l'image, les paraboles, on en a parlé. Et pourtant, on a cru sans voir. Alors, c'est notre imagination, bien sûr. On a cru sans voir. On a cru en Dieu sans le voir. Eh oui. Alors, je fais une petite parenthèse, mais comment peux-tu finalement, eh bien, dire que tu aimes ton frère? Finalement, eh bien, alors que tu le vois, c'est plus facile quand même de voir et puis de croire, naturellement. Mais c'est pas parce que finalement les choses sont ainsi que, eh bien, on avance. Hein. Et il y a une petite remarque que je voudrais faire, c'est que l'évangile, la conversion, la vie spirituelle, la foi, eh bien, c'est marcher à l'aveugle. Hein. Et pourtant, nous le croyons. Pourtant, nous le croyons dur comme fer. Nous croyons que Jésus est venu, il est mort pour nous, et puis toute son histoire, nous la croyons. Et puis après, il est question, je l'ai signalé tout à l'heure, les apparitions et la révélation. Alors la révélation, il y a deux livres, c'est facile. Enfin, il y en a un en deux. Il y a le livre de la nature, où Dieu nous parle, ce qui est tout à fait accessible. Et puis, il y a naturellement, et bien par-delà, ce que nous savons par l'Esprit qui nous a et bien convaincu, les deux livres. Le livre, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la nature, et puis la révélation, c'est celle que on nous dit que Jésus est venu sur cette terre, il est mort pour nous, il est ressuscité, et puis il est monté au ciel, et il vient bientôt nous chercher. Hein. Ouais. On peut peut-être placer les choses de cette manière. Hein. Ouais, révélation à l'humain que nous sommes, on appelle ça l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que finalement, eh bien, Dieu, pour se faire connaître à nous, eh bien, il a pris finalement eh bien, des formes, des manières, toutes sortes de choses pour nous rendre accessibles à lui. Anthropomorphisme. Et puis, dans l'Ancien Testament, il y a une révélation formidable qui n'existe plus aujourd'hui, enfin, qui existe sous une certaine forme, c'est l'ange de l'Éternel. Vous avez entendu parler de l'ange de l'Éternel dans la Bible? Eh oui, hein. Il y a des textes dans l'Ancien Testament où il y a des révélations de Dieu à travers l'ange de l'Éternel. Et vous savez qui c'est l'ange de l'Éternel? C'est Jésus-Christ. Mais seulement dans l'Ancien Testament, parce que l'ange de l'Éternel s'est incarné et c'est tout l'Évangile. C'est le Nouveau Testament. Et c'est une apparition de Dieu. Voilà. Alors les hommes d'hier de l'Ancien Testament comprenaient peut-être pas. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que quand Jésus est venu, il est apparu dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, les Juifs ont attendu des siècles et des siècles en disant « Seigneur, montre-toi et manifeste-toi ». Lorsque Jésus est venu, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils ont reçu ses enseignements et ils n'ont pas cru. Ils l'ont crucifié. Alors vous savez ce que pour faire avec les hommes, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Sinon qu'il y ait vraiment une action du Saint-Esprit. Mais une action de l'Esprit. Et l'ange de l'Éternel, c'est la manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament, au peuple juif en particulier, dans son essence même. Et vous savez ce que veut dire l'ange de l'Éternel? Son nom est merveilleux. Ouais. C'est beau, hein? Vous ne trouvez pas que c'est pas beau? Si, vous trouvez que c'est beau. Je vous le dis dans les deux sens. Son nom est merveilleux. Eh oui. C'est quelque chose. Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin dans ce que nous avons vu déjà. Donc, besoin humain de voir Dieu pour nous rassurer, pour nous contenter, tout ce que vous voulez. Hein. Et je voudrais, dans le première pensée que nous avons, on a parlé de déclinaison. Alors, le monde est ainsi. Et je pense qu'à travers les siècles, il y a ce que l'on peut appeler, et ce que l'on appelle, c'est dans tous les livres d'histoire, d'une manière ou d'une autre, c'est la mythologie. Vous savez ce que c'est la mythologie grecque, la mythologie sumérienne, voilà, tout, babylonienne, etc., etc. Comme il y a encore aujourd'hui une survivance de la mythologie. Hein. Vous voyez, les mythologies germaniques, hein, des scandinaves, ça ne me vient pas à l'idée, mais il y a encore ce genre de choses, ça c'est sûr. Hein. Ce sont les croyances païennes. Elles se rapportent à Dieu, naturellement. Hein. Dieu, au singulier pour nous, mais au pluriel pour toutes les mythologies. Hein. Voilà. Jusqu'à une infinité innombrable, on ne peut pas... Voilà, c'est innombrable. Croyances païennes ancestrales qui reviennent finalement à la surface. Il y a une mythologie en Bretagne. Hein. Les Celtes, etc., les druides. Et ça revient. Hein. Il y a des gens qui sont en train de réinventer tout ça. Ouais. Donc, on en est là, mythologie. Elles sont nombreuses dans le monde. Elle foisonne dans le monde, parce que les hommes ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas sa révélation dans sa parole. Et souvent, elles conduisent au culte de l'occulte. Culte de l'occulte, de la magie, de l'astrologie, qui a donné le panthéisme, c'est-à-dire Dieu est partout, dans les arbres, dans les poissons, dans les hommes, partout, le panthéisme, dans les montagnes. Tout y passe, hein. Toute la création de Dieu, comme nous l'avons lu dans Romains, hein, ses œuvres merveilleuses se voient comme à l'œil nu, et bien c'est ça le panthéisme. Et on pourrait penser qu'en 2025, dans notre temps aujourd'hui, ça n'existe plus, ça c'est l'histoire de, ancienne. Non, c'est encore en train de revivre, de survivre hein, et d'être remis au goût du jour. Quand on voit les traditions, quand on voit toutes sortes de manifestations, toutes sortes de choses, le panthéisme, ou le chamanisme si vous voulez. Alors là, ça touche particulièrement à quelque chose de dangereux, c'est l'occultisme. Ouais. Et pourtant, les gens se disent croyants. Ils croient à quelque chose. Sauf dans la révélation de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ, dans l'Évangile. Panthéisme, chamanisme. Et ce qui a donné le syncrétisme des croyances. Aujourd'hui, on mélange tout. C'est-à-dire qu'on prend un petit peu de religion chrétienne, on y met peut-être un peu de chamanisme, toutes sortes de choses, parce que là, le chamanisme, c'est la puissance, hein. C'est le pouvoir, c'est le miracle, c'est le surnaturel qui se voit. Alors, on en est là, de ces déclinaisons, et on sait que ça a toujours été le monde et qui existe encore aujourd'hui. La deuxième chose, c'est le détournement de la foi juive. Dieu a choisi un peuple, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple des Hébreux, à travers les siècles qui se sont déroulés. Et à un moment donné, Dieu a envoyé des hommes comme Abraham, père de la foi, il a envoyé des hommes hautement comme Moïse pour donner la loi. Donc il y a la connaissance derrière, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. La conscience, en effet, eh bien, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de la lumière et des ténèbres. Ça, c'est le détournement de la foi juive. Parce qu'il faut bien quand même remarquer que les juifs, ils étaient durs d'oreille. Hein. Un cœur, finalement, de pierre. Un cœur roide. Ça arrive très souvent que nous trouvons ça dans nos lectures. Peuple de Dieu au cou roide, au cœur roide. Ça, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Pendant des siècles et des siècles, ça a été comme ça. Et Dieu a donné, finalement, la loi. Donc, quand on dit loi, c'est la connaissance. Oui. C'est comme pour nous, dans notre situation, et eh bien dans notre monde d'aujourd'hui, en démocratie, la loi est donnée et personne n'est censé de l'ignorer. Hein. Eh bien, c'était les Juifs, ils avaient ça en tous les cas. Et ils avaient un type d'adoration, c'était le vaudeur. Je prends que ça, hein, parce qu'il y en a toutes les pages de toute façon. Vous savez, le vaudeur, quand Moïse est monté là-haut, quand il est redescendu, ce n'était pas tout à fait la même chose, hein. Il y avait la parole de Dieu, elle avait été donnée, il y avait une connaissance sommaire probablement, parce que c'était tout neuf, tout nouveau. Hein. Le livre était neuf, on peut dire. Mais une chose qui est certaine, la première chose qu'ils ont faite, eh bien, c'est de faire un « Où est ton Dieu Moïse ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est parti ? Il est en voyage ?» Enfin, c'était un peu les termes que nous pouvons trouver dans la Bible. Hein. Et comme ils ne le voyaient pas, ils se sont impatientés, parce que il faut dire que notre humanité, il y a quelque chose qui lui manque, c'est la patience. C'est vrai encore aujourd'hui, hein. On le voit à travers les faits divers, ça c'est sûr. Alors nous avons naturellement toutes ces choses, et nous nous apercevons qu'ils ont fait le veau d'or. Et comme toute religion qui est en train de dégringoler, alors ils ont pris de l'or, ils ont pris de l'argent, ils ont pris des trésors, ils ont pris toutes sortes de choses, et ils ont fait un veau d'or. Et ils se sont dit, voilà notre Dieu. Et ils l'ont adoré. Vous savez, c'est mal fini hein, quand même. Hein. Ça s'est terminé dans l'orgie. Ça s'est terminé dans toutes sortes de choses. Et je peux vous dire que quand il est descendu de la montagne, Moïse, il n'était pas content du tout. Parce qu'il y avait déjà le détournement, il a commencé là, hein, en quelque sorte. Et on a érigé en divinité le veau d'or. Remplacer le Dieu créateur par une vache. Excusez-moi l'expression, mais c'était ça. Hein. Parce qu'un veau, ça peut devenir une vache, non? Voilà, c'est une logique déconcertante. Un veau, voilà. Vous vous rendez compte? L'insulte à Dieu, le Créateur, celui qui est divin, d'en faire, moins qu'un homme, un animal. Imaginez-vous un peu ce que ça peut être. Terrible. Alors, je cite dans le Décalogue, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit Dieu à Israël. Tu ne te feras pas d'image taillée. » Ou d'image, je ne sais quoi, d'une manière ou d'une autre, insculptée, enfin, ce que vous voulez. « Tu ne te feras pas de représentation quelconque de ce qui est en haut. » Surtout qu'on n'y a jamais été là-haut. Bon, on va y aller. Et en bas, ce qu'il y a sur la terre. Pas de prosternation, d'adoration, d'invocation à quelque chose qui n'est pas vivant. Ben oui, quand vous voyez ce fameux veau d'or, mais même si c'est du métal précieux, hein, je ne sais pas si les bijoux du Louvre, là, ils sont peut-être dans le veau. Hein. Parce qu'on ne les retrouve pas pour l'instant. Enfin, c'est une petite somme modique, hein, 88 millions, enfin combien? C'est 88 millions, je crois, hein, ça vaut. Enfin bon, remarquez, moi ça ne me gêne pas parce que je ne serai jamais roi, je n'aurai jamais tous ces trésors et ces choses comme ça, de toute façon. Pas de prosternation, ni service, parce que ce genre de service à quelque chose qui est la fabrication des mains humaines, du cerveau humain, mais ça c'est de l'idolâtrie. Et s'il y avait un peuple parmi les autres peuples de la terre, incrédules, les peuples païens, c'est bien l'idolâtrie. Dois-je dire que dans la religion chrétienne, on va en parler d'ici quelques instants, et bien même peut-être parmi les évangéliques, il y a aussi de l'idolâtrie. Alors c'est pas le même type, hein, on va pas, vous n'avez pas, vous, un veau sur votre buffet ou tout ce que vous voudrez. Hein, mais aujourd'hui c'est l'amour de l'argent, aujourd'hui c'est le sport, aujourd'hui c'est la musique, c'est ceci et cela. Mais nous avons des veaux d'or. Hein. Ça, il ne faut pas s'en... Parce que ce sont des faux cultes pour des faux dieux, tout simplement. Et vous savez, ça porte un nom dans la Bible. Abomination devant Dieu. Aux yeux de Dieu. Abomination. Vous croyez qu'il va se montrer, le Seigneur? Qu'il s'est montré à Israël? Qu'il se montre encore aujourd'hui? De dire, regardez comment je suis, moi, le Dieu majestueux, le Dieu merveilleux. Et vous savez, regardez ce que vous faites de moi, une idole, un veau, et de toute votre, finalement, eh bien, imagination, oui, abomination. Et puis, on a parlé du détournement, on a parlé de ces déclinaisons par rapport à la mythologie, détournement par rapport à ceux qui ont détenu la connaissance, les Juifs. Et j'aimerais vous dire quelques mots maintenant sur les dérapages de la foi chrétienne. Ha ! Vous savez, on est loin, véritablement dans notre monde, de vivre l'Évangile. Alors on le dit, on connaît le mot, il est partout. C'est vrai, surtout dans le contexte spirituel ou simplement les croyances religieuses. Parce que nous voyons que là, ce dérapage a donné des cultes de superstition. On n'est pas dans la paix et dans la sérénité ou tout simplement dans cette assurance ou ces certitudes, on est dans la superstition. Les religions qui ont dérapé, le christianisme qui a dérapé, Dixit, finalement les religions vous connaissez, les principales dans nos pays, pays laïque ou tout ce que vous voulez, religieux ou laïque, peu importe, la superstition. Où les gens, au lieu d'avoir des assurances et la joie de connaître Dieu, eh bien ils sont dans la peur, parce que la superstition c'est ça. J'ai peur de ceci, je crains cela. Mes frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens nés de nouveau, je vous dirais, vous n'avez pas raison d'avoir peur. Vous n'avez pas raison d'avoir peur. Nous n'avons pas raison, je me mets avec vous. Parce que moi aussi, ça m'arrive d'avoir des poussées de peur, de crainte, d'appréhension. Et si ceci et si cela. Mais ne vous inquiétez de rien, mes amis. Oui, parce que votre Père Céleste sait vous donner, il sait que vous en avez besoin. Alors, il sait vous donner tout ce que vous avez de nécessaire pour vivre et bien vivre. Parce que vous me connaissez. Parce que vous savez, vous ne m'avez jamais vu, mais vous me faites confiance. Et c'est là où la paix et la joie viennent dans les cœurs. Quand on a du lâcher prise par rapport à toutes nos batailles, tous nos combats, toutes nos luttes, ouais. Alors, quand on voit que nos temples, églises d'une manière ou d'une autre, chapelles et tout ce que vous voulez, sont bardés de veaux d'or que l'on appelle les statues. Qu'est-ce que c'est qu'une statue? Elle peut être en or. Elle peut être dans des matériaux extraordinaires, formidables. Mais elle peut être finalement du bois, elle peut être du plâtre. Et vous vous mettez devant. Je ne parle pas pour vous, mais vous mettez devant, vous les invoquez. Mais il n'y a pas la vie. Il n'y a rien du tout, ils sont vides. Peut-être même creuses. C'est creux. C'est creux. Dérapage de la foi chrétienne. Et tous ces lieux de pèlerinage, sous finalement les collines, oui, comme vous savez, il est parlé des hauts lieux dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Les pèlerinages, ne serait-ce que déjà dans notre pays, où il y a des millions de personnes qui viennent chaque année pour se recueillir. Devant quoi? C'est pas Dieu qu'on en adore, c'est même pas Jésus-Christ, c'est des saints et des saintes qu'on a décrétés. Et des gens qui sont morts. Et on va prier les morts? Et bien voilà. Tout simplement, les lieux de pèlerinage dédiés. C'est comme ça que Dieu va se montrer. C'est pas possible. Vous avez tout simplement l'iconographie. Alors pour ça, eh bien, l'iconographie, c'est tout simplement l'art visuel des religions. Et moi, il y en a une qui me... Alors, il y a le catholicisme, naturellement, parce qu'on était baigné dedans, mais l'orthodoxe, il nous est arrivé, enfin, nous avons été visiter Israël il y a quelque temps, et nous étions à Jérusalem, et il se devait, en tant que pasteur, de voir un peu comment ça se passait. On a été au Saint-Sépulcre. Et il y a une chose que je me souviendrai toute ma vie. Il y avait un monde fou d'abord, et il y avait des icônes partout. Des photos, des représentations, comme vous les voyez quelquefois à la télévision, en ce qui concerne les orthodoxes. Les maris, enfin, toutes sortes de choses, de toutes les couleurs, enfin, c'est du grand art, si vous voulez, parce que c'est bien fait, il y a beaucoup de soins, etc., etc. Et je me souviens qu'ils avaient amené, je ne sais pas, c'était des orthodoxes qui devenaient peut-être, je ne sais pas, de... peut-être Roumanie ou Russie, je ne sais plus, peu importe, de l'Est, parce qu'ils sont naturellement d'obédience orthodoxe. Cet homme est arrivé en chariot. Il y avait plusieurs personnes autour de lui et qu'il ne pouvait pas atteindre. Il y avait une icône qui était passée, il ne pouvait pas arriver à l'atteindre. Un spectacle extraordinaire, ah oui, et tellement affligeant que cet homme ne pouvait pas. Il voulait embrasser, il voulait toucher. Finalement, cette icône, alors ils l'ont pris, ils l'ont tiré, ils l'ont comme ça. On disait, mais le pauvre malheureux, il était privé finalement de ses jambes et peut-être même de ses bras, et on l'a pendu comme ça devant l'icône pour qu'il puisse l'embrasser, pour puisse la toucher. Je me dis, mais c'est malheureux des choses comme ça. C'est malheureux, c'est terrible, je m'en souviendrai toujours. Ah oui, ça nous avait choqués, on s'est dit, mais quelle misère. On est allé dans une église orthodoxe à Arad, et les gens rentraient dans cette belle cathédrale, elle est toute neuve, la Roumanie venait juste de sortir de la dictature. Et là, la première chose qu'ils ont investi, c'était monter une cathédrale extraordinaire. Il n'y avait pas d'argent, mais là, il y avait de l'argent. Et on voyait les gens venir. Et ils étaient devant des petites tables où il y avait des icônes et tout ça. Et les gens ils embrassaient. C'est le meilleur moyen pour avoir le Covid. On se dit, mais Seigneur, ce sont tes créatures. Et ils en sont rendus là. C'est le veau d'or encore. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Les symboliques des images pieuses, où les gens les portent même sur elles-mêmes. Toucher, avoir. Les médiations de prière. On a parlé tout à l'heure de la prière des morts, mais ça c'est aussi un veau d'or. On était pas loin de la Toussaint dernièrement. Alors je vous ai donné ça pour donner un peu l'image de tout du propos. Maintenant, je reviens. Je voudrais simplement vous entretenir brièvement du retour de la vérité biblique. Et la vérité de biblique, elle porte un nom. La vérité évangélique pour nous. Elle porte le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est Jésus-Christ et Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et c'est ça la représentation de Dieu. Amen. Ah oui. Le reflet, il nous est dit dans un texte, Jésus-Christ est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Qu'est-ce que nous avons besoin de plus? On a besoin que de Jésus. Et là, on voit Dieu. Dans son caractère, dans son amour, dans sa compassion, dans son, finalement, sa douceur, enfin toutes les qualités de perfection. Nous le voyons en Jésus-Christ. Vous voulez me voir, dit Dieu? Eh bien, regardez Jésus et vous verrez. En attendant de nous voir face à face de l'autre côté. Parce que là, on aura véritablement, et vous savez, on va être étonné. Hein. Oui, on va être étonné, on va avoir des surprises. Hein. Parce qu'on s'est mépris souvent sur des choses. Et on y a mis du religieux dedans. On lui a mis des croyances, de mythologie, des détournements, de toutes sortes de choses. Et on a pensé que c'était la vérité. Non, c'est ni la vérité ni la lumière, c'est les ténèbres. Les religions sont ténébreuses. Ouais. Reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, parce que Jésus dira à une femme qui était une païenne, elle était la Samaritaine, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité.
Amen.
C'est ça l'essentiel, en esprit et en vérité. Un jour, il y a un groupe de Grecs qui étaient à Jérusalem, des prosélytes, hein, je suppose c'était des Grecs, et qui avaient finalement accepté la religion, le judaïsme, on peut dire ça comme de cette manière. Un jour ils sont venus voir Philippe, et il y en a un autre, ça devait être je ne sais plus lequel, je ne me souviens plus, Thomas ou Philippe, enfin les deux peut-être, et ils sont venus tirer les manches des apôtres. Tu sais ce que nous voudrions, nous sommes à Jérusalem, nous venons d'un autre pays, c'est la Grèce. Et ils ont certainement voulu lui demander à ses deux disciples, ils ont demandé, nous voulons voir Jésus. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous voulons voir Jésus. Et ça, c'est en écho, probablement, d'une autre parole que Jésus avait donnée à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je voudrais simplement terminer par quelques citations bibliques. Ça va être un petit peu un défilé, hein. Voilà, sans fanfare. Notre ami Job. Ah oui, il était parti formidablement. Personne n'aurait pu penser, lui, prince de l'Orient, qu'il lui arriverait tant de souffrances et tant de malheurs. Et nous voyons que ses expériences avec Dieu, de rencontres avec Dieu, eh bien, il a tout eu au début, il a tout perdu, mais à la fin, il dira ceci, « J'avais entendu parler de toi, Dieu, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. » Eh oui. Ça, c'est formidable. Prérogative, naturellement. Job et ses expériences, finalement, il a ouvert, Dieu lui a ouvert les oreilles, il lui a ouvert les yeux. Et à ce moment-là, eh bien, tout ce qu'il avait perdu, il l'a retrouvé, tout simplement. Moïse au Sinaï, on en a parlé tout à l'heure. Voir Dieu dans notre condition d'homme charnel, matériel, notre corps, notre corps physique, eh bien, c'est ce qu'il nous est dit à un moment donné, parce que là, c'est quand même une référence importante. Il nous est donné simplement cette parole où il est dit ceci, je vais vous donner le verset si vous voulez, vous le retrouvez plus tard. Il est dit ceci, donc, au verset 23, cette parole, Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Mais un peu plus loin, il nous est simplement dit qu'il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait que derrière la foi, il y avait quelque chose qui l'attendait, le plus grand de tous les dons. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, parce que finalement ça lui a coûté 40 ans de promenade sur le sable, dans le désert, vous comprenez. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Mes frères et sœurs, nous avons des tribulations, nous avons toutes sortes de choses. La vie est difficile, et surtout quand nous souffrons, quand nous avons des douleurs, c'est long. Oui, c'est long, ça c'est sûr. Mais il a gardé au fond de son cœur, et pourtant Dieu l'avait élevé très très haut, prince d'Égypte, avec la sagesse finalement qu'il avait acquise. Il est passé par le désert pour être vidé, pour apprendre ce que c'est la foi. Il y avait une chose qui demeurait chez lui, c'est qu'il avait les yeux fixés. Où ça, les yeux fixés? Eh bien, sur les perfections de l'invisible. Ouais. Il, tout simplement, eh bien, il avait cette force de connaître la grâce de Dieu et il voyait comme voyant l'invisible. C'est ça ce qu'il nous faut tous les jours de notre vie. Seigneur, donne-moi finalement de garder la foi sur ce monde invisible. Nous, nous avons une connaissance et une perception pour les choses matérielles et dans notre environnement. Mais pour regarder, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans le même livre des Hébreux, il nous est dit, gardez les yeux fixés sur Jésus. Ça n'empêche pas de voir ce qui est autour de nous et de bénir le Seigneur, ça c'est certain. Un jour, il y a un apôtre, ou un disciple plutôt, qui s'appelle Philippe. Et il va poser une question à Jésus. Il va lui dire, ça c'est bien, montre-nous le Père. Eh oui, ça c'est quelque chose, montre-nous le Père. Et il va se décliner, il va décliner ceci, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous cherchez à voir Dieu, ben, ça passe que par là, hein, naturellement. Hein. Il y a les splendeurs de la guérison, les splendeurs de la création, pardon, excusez-moi, nous l'avons vu tout à l'heure, sa divinité se voit comme à l'œil. Et les hommes sont indiscutables parce qu'ils ne peuvent même pas percevoir dans le grand livre de la création, eh bien que c'est Dieu qui est véritablement le créateur de toutes choses. La perfection. Il y a le témoignage de Thomas qui n'est pas mal aussi, hein, vous connaissez Thomas. Il va passer par la confusion et il va arriver à une confession. Il y a, on peut prendre peut-être, c'est dans Jean. Dans Jean, il est au chapitre 20, il est dit cette parole. Parce que c'est intéressant de reprendre un petit peu tout ça. Ça nous rappelle eh bien, ce que nous avons déjà appris. Au verset 25, il est dit ceci, les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Les autres disciples en parlant à Thomas. Mais il leur dit, si je ne vois dans mes mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main sur son côté, dans son côté, je ne croirai point. Et un peu plus loin, puis Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas a répondu, cette parole qui est une des plus belles paroles de l'Évangile. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est Dieu. Et Dieu est avec Jésus. Dieu est en Jésus. Comme le Saint-Esprit, aujourd'hui, Jésus, mort, ressuscité, pour un temps au ciel, eh bien, il est en nous. Il est dans nos corps, il est dans nos cœurs. Présence de Dieu, devant le peuple d'Israël, l'histoire du vide dans le désert, la nuée, et tout simplement le feu. La transfiguration, cette lumière inaccessible, incompréhensible, ouais, où Jésus va apparaître. Mais là, il n'a plus finalement eh bien, une apparition humaine, mais il va avoir une apparition divine. Il nous est dit que Jésus resplendissait de la gloire du ciel. Et c'est encore des choses qui sont dites. La résurrection, qu'est-ce que l'on peut faire avec un mort? Pas grand-chose. Mais quelques heures après, il va finalement eh bien, vivre. Il va revenir dans un corps, il va revenir en chair quelque part, pour quelques jours, quelques temps. Alors reconnaître le pouvoir de Dieu dans ses actes prodigieux. Regardez autour de vous. Regardons même notre propre vie. Et arrêtons de nous plaindre continuellement. Il y a ceci et cela. Enfin, je ne parle pas autant pour vous que pour le monde dans lequel on est aujourd'hui. Tout va bien, Madame la Marquise. Hein, et je connais une cantique classique. Cantique. Voilà. Parce que ça revient. Il y a quelque chose aussi qui nous parle de la grandeur, la souveraineté de Dieu. C'est l'enlèvement ou les racheter, c'est-à-dire nous. Attention, les autres, il y en a qui vont rester pour autre chose. Mais c'est l'enlèvement pour nous montrer que là, nous allons aller vers le ciel. Est-ce que vous avez préparé votre valise? Est-ce que vous avez pris le nécessaire pour aller être enlevé? Surtout, ne le faites pas au dernier moment, parce que ça va très très vite. Un même clin d'œil. Ouais, c'est maintenant que ça se prépare. Et puis la parousie, ça sera pour finalement, eh bien, séparer les copains. Ils seront déjà séparés, on sera déjà... nous, dans l'enlèvement. Mais après, ça sera pour régler les comptes. La parousie, Jésus va revenir. Et ça sera la conversion des Juifs à ce moment-là, qui ont tellement, finalement, eh bien, daigné de croire à la parole de Dieu, qui ont méprisé leur Messie parce qu'ils l'ont crucifié. Alors, à ce moment-là, il y en a des gens qui vont ouvrir, hein, oui, qui vont ouvrir les yeux parmi les Juifs. Hein. Et puis, il y a une chose aussi que nous pouvons véritablement attendre, c'est Dieu dans sa gloire éternelle, dans son royaume. La conclusion serait celle-ci, si vous voulez bien. Ce Dieu que je ne vois pas, et pourtant tout écrit autour de nous, de sa divinité, de son génie, de sa souveraineté, de sa puissance, de son amour, de sa compassion, de l'amour qu'il a pour les hommes, en nous donnant ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oui. Ce Dieu qu'on ne voit pas, il est partout. Il est en tout. Il est surtout. Et oui, c'est cela, ce Dieu qu'on ne voit pas. Alors, faire confiance au Seigneur en toutes circonstances. Ça vous rassure, mes frères et sœurs, ce que je vous dis ce matin? Ouais. Parce que vous savez, il n'y a pas de plus grand bonheur hein, connaître Dieu dans sa vie. À travers la personne de Jésus. Ça, c'est notre dispensation à vivre pour nous. Ce n'est plus la loi qui oblige, qui nous amène au devoir, mais c'est l'amour qui nous fait croire. Et avec l'amour qui nous fait croire, eh bien, nous avons tout le reste. Oui, tout le reste. La foi ne supprime pas les pensées et l'intelligence humaine. La foi. Ou la raison des hommes, car la raison tient la main de l'homme, et ne va pas au-delà, tandis que la foi tient la main de Dieu. Elle tient la main de Dieu. Nous marchons avec Dieu, Dieu marche avec nous, comme Enoch. Et nous allons de l'avant, naturellement, parce que nous nous appuyons sur ses promesses, les promesses de Dieu, les promesses réitérées par Jésus, dans des langages comme nous l'avons dit. Hein. Et c'est lui qui trace un chemin invisible qu'on ne connaît pas. J'ouvrirai les yeux des aveugles. Ils marcheront sur une terre étrangère. Ils ne savent pas où ils vont, mais je les conduis. J'ouvrirai les yeux des aveugles. Et je finis par ce texte dans Ésaïe, parce que il y a des belles choses dans la Bible, non, quand même, il me semble. Chapitre 42, verset 16, il est dit cette parole: « Je ferai marcher les aveugles. sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Eh bien, c'est ça, la marche par la foi. On ne sait pas tout à l'avance, on ne sait rien à l'avance. Mais lui sait toute chose. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que Dieu nous dit, voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. Je ne les abandonnerai pas. Ceux qui disent aux idoles de métal fondu, vous êtes nos dieux. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse ce matin. Ouais. J'avais préparé ce message il y a à peu près un mois. Et puis j'ai pas dormi cette nuit. Oui. Vraiment, j'étais. Et je me dis, tiens, il y a encore des choses à dire. Et j'ai pas tout dit. Mais c'est pour dire que j'ai été travaillé pour montrer que finalement, eh bien, Dieu, il n'est pas auprès de nous. Il est en nous. Amen. Sans être complètement mystique et tout ce que vous voulez, hein, y en a qui se prennent pour Dieu. Alors laissons-les avec leur histoire. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce que je voudrais dire, c'est que qu'est-ce que l'on peut ajouter à cela? Voilà, c'est tout simplement eh bien, faire confiance au Seigneur, parce qu'il est plus proche que nous le pensons. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous allons nous réjouir ici quelque temps. On n'est pas pressé de partir, mais nous allons nous réjouir parce que nous verrons finalement Dieu, Jésus notre Sauveur, face à face. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es merveilleux, Jésus. Tu es en effet le roi des rois, et nous savons que sur la terre il y a des rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu règnes à jamais, tu règnes pour l'éternité. Et nous voulons, Seigneur, te remercier parce que, en effet, il y a là deux natures. Et de cette nature, de la chenille, c'est-à-dire la corporalité, eh bien, nous voulons véritablement, Seigneur, croire que tu peux faire de nous, dans le ciel, eh bien, de formidables papillons à l'image de Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes, ton secours, tu marches devant nous. Et nous voulons, Seigneur, véritablement, te dire les uns et les autres, merci de nous avoir parlé, merci de nous avoir sauvés, merci de nous avoir rendus capables de croire à ce mystère merveilleux de la rédemption, du salut en Jésus-Christ. Et de nous préparer le ciel maintenant, bientôt. Et en effet, nous verrons l'inimaginable, l'inqualifiable. Oui, Seigneur, en perfection. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.